France Culture.
C'est un mytho, un escroc, hein, quand même, c'est un phénomène.
Le Pic-Assiette, une série d'Alain Lefkovitch et Sonia Kronlund.
Le loi faisait l'événement, il était devenu le must.
C'est une histoire qui prête à rire, hein. Sauf qu'il peut mettre les gens par terre, quoi.
Épisode 6, plus personne ne rit.
Moi, c'est Xavier, j'ai 28 ans, je travaille en sécurité, en CDI, j'étais sur le secteur de Valenciennes, et après, j'ai eu des déboires familiaux, et maintenant, je suis sur le secteur de Dunkerque. J'ai fait la rencontre de Monsieur Jolois en 2020. Je venais d'accéder à un foyer et je ne travaillais pas à cette époque-là. J'étais bénéficiaire du RSA. Le matin, j'allais manger des petits déjeuners à un endroit qui s'appelle l'Estaminet à Dunkerque.
C'est quoi l'Estaminet ?
C'est pour tous les gens en précarité. Souvent, c'est des gens qui touchent le RSA et qui n'ont pas de logement, qui sont vraiment... Certains sont addicts aussi à la drogue. Enfin, c'est vraiment les gens qui ont besoin de ça pour vivre, quoi. Et en fait, c'est là que je l'ai rencontré tout bonnement, quoi. Je parlais à tout le monde et au début, je ne l'avais pas remarqué.
Depuis quelque temps déjà, le Pic-Assiette a laissé derrière lui les arnaques à grande échelle, les tablés de notables, les projets pharaoniques, les films. Désormais, il individualise, il cible, il isole. Des hommes ou des femmes séduits par son affairisme, ses amitiés influentes, des promesses d'argent. Il y a une magistrate, un agent immobilier, un marchand de thé, des policiers et bien d'autres qui se font embarquer dans des dizaines d'arnaques plus ou moins mégalos. Des personnes qui ont une certaine indulgence pour les escrocs, ceux qu'ils sont eux-mêmes un peu ou rêveraient d'être. Ils trouvent ça gonflé, courageux, drôle. Mais ils sont de moins en moins nombreux, ceux-là aussi. Jolois s'en prend maintenant à des personnes vulnérables et plus personne ne rit. Fini les hôtels 4 étoiles ou les manoirs, le plus simple pour trouver un toit et à manger, ça reste l'arnaque sentimentale ou l'emprise psychologique. Et quand Jolois se fait virer de chez l'une ou l'autre, il se retrouve sans domicile, avec ses gros sacs qui contiennent toute sa vie.
Alain Jolois, quand je le rencontre, il était comme les autres. Il était parmi les SDF. Moi, je voyais qu'il parlait avec tout le monde, donc tout le monde s'entendait bien avec lui, donc il était intéressant. J'étais un garçon qui était en manque de repères, c'est-à-dire que j'avais besoin d'un soutien familial que je n'avais pas. Et je pense qu'il a senti cette faiblesse, donc il a commencé à me parler. Donc on a discuté, on parlait de son pays en Écosse. Et après, tout doucement, ça a déroulé vers l'emploi qu'il avait là-bas, le fait qu'il était général 5 étoiles. Donc comme il avait toute une palette de fonctions, moi ça m'a intéressé et j'ai commencé à parler avec lui. Il était quand même très cultivé. Et des fois, je regardais sur Internet et ce qu'il disait, il n'y avait pas tort. Et comme c'était quelqu'un de très intelligent, très cultivé, je me suis dit, continuons à en parler, c'est intéressant, quoi. À l'époque où je l'ai connu, il logeait au Fliu. C'est un foyer de sans-abri, c'est derrière la gare de Dunkerque. C'est un foyer de logement intercommunal d'urgence, et c'est pour les SDF. Et lui était considéré comme SDF. D'ailleurs, là-bas, il était tellement apprécié des agents de sécu que personne n'osait le toucher. Parce que justement, il s'entendait bien avec tout le monde, il savait appâter tout le monde. Il se mettait bien avec les personnes qu'il fallait pour être intouchable, entre guillemets. S'il y avait une bagarre, lui, on n'allait pas l'embêter. Il n'était pas considéré comme un SDF comme les autres par les autres. Parce qu'il avait une façon de parler, une façon de regarder qui pouvait impressionner certaines personnes. Il pouvait casser les gens très vite. Il décèle ton défaut et il appuie dessus pour te faire mal. Quand je lui demande pourquoi il est là, il me dit qu'il est caché parce qu'il y aurait des gens dans son pays qui lui voudraient du mal. Il aurait empoisonné des Saoudiens là-bas dans leur pays et il aurait peur qu'il les retrouve. Il dit qu'il a voulu se fondre totalement dans la masse et qu'il dit qu'en Angleterre, les gens n'iront pas le chercher là. Il faut qu'il attende que les choses se calment en fait. Il me dit qu'il a des hautes fonctions dans son pays, qu'il a une retraite de général et qu'il gagne 140 000 livres par mois. Je me souviens qu'il m'avait dit qu'il était lord. Vraiment une famille très riche, presque aussi riche que les Windsor en Angleterre. Quelqu'un d'important, quoi, qui n'a rien à voir avec les gens qui sont dans la rue. Il disait qu'il a des chaussures à 500 euros, des marques, une marque que j'ai jamais entendue. Lui, il dit que tout ce qu'il porte, ça vaut très cher, mais à première vue, on dirait vraiment des vêtements d'un kidam normal, en fait. disait qu'il s'appelait Alan Fraser Ovlovat. Ça, c'était son vrai nom, écossais. Et Alain Jolois, il disait que c'était son nom de couverture, c'était pas son nom.
Il ressemble à cet homme que vous rencontrez?
Alors, il est petit, il a des lunettes, il est assez gros, un peu à la Steven Spielberg, mais en petit. Comment expliquer? Un peu débonnaire, quoi. On lui donnerait le bon Dieu sans confession. Il disait qu'il était espion, tout ça, avec un physique comme ça. Ça m'a choqué. C'est vrai qu'en général, on ne pourrait pas l'imaginer comme ça, ou même un ancien espion, mais il avait tellement toujours une explication, il y a toujours des bonnes excuses qui paraissent plausibles. Il disait toujours que lui, par exemple, son point fort, c'était ce qu'il avait dans la tête, c'était pas le physique. C'est-à-dire qu'il était très malin, on l'appelait l'anguille, il pouvait se dépêtrer de chaque situation. Et il disait le physique, ça servait à rien, il fallait une cervelle. Et j'étais vraiment dans une période compliquée, et j'avais pas besoin de plus pour être convaincu. J'ai accepté ces mots-là, et je me suis dit, ouais, peut-être qu'il a raison, juste l'intelligence, ça suffit. Peut-être qu'avant, il était pas comme ça, peut-être qu'il y a 10 ans, il était mince. C'était toujours plausible pour moi. Tout doucement, on commence à avoir une relation plus fusionnelle, c'est-à-dire qu'on échange des connaissances. Donc lui, il y en a beaucoup plus que moi, donc c'est plus lui qui me donne des connaissances. Il parle beaucoup de la franc-maçonnerie en Italie, en France. Il m'a parlé des volcans, il est vachement calé en animaux, mais très grande connaissance en politique. Alors, on échange là-dessus, et en fait, ça devient très intéressant, parce que putain, il m'apprend des trucs, lui. Ensuite, tout simplement, la relation évolue vers le fait qu'il est en galère et moi, je commence à prendre pitié de lui parce que je commence à l'apprécier. Et tous les matins, je vais le voir, je le cible lui et je parle avec lui, principalement, on va dire. Il mettait des sandwichs de côté quand je venais le voir pour appâter. Du coup, notre relation a évolué parce que justement, on commençait à s'entendre, à avoir des points communs. Il disait que je lui apprenais des choses, je pense que c'est faux, mais lui m'apprenait des choses. Je lui parlais du système français, en fait, des aides sociales, parce qu'il disait qu'en Écosse, il n'y avait pas le même système, et qu'il allait prendre exemple du système français pour l'installer en Écosse. Et en fait, je lui disais tout ce qu'il pouvait toucher, où il fallait aller pour faire ses démarches, tout ça. Puis il a commencé à me parler du fait qu'il pouvait m'embaucher dans sa société en Écosse, qu'il pouvait me proposer un métier d'investigateur là-bas. D'aller voir les gens qui sont sous contrat chez eux. Enfin, j'ai pas trop compris, c'est plus une sorte de contrôleur, en fait, pour voir si les gens font bien leur travail, enquêter un peu sur certaines missions, enquêter sur certaines sociétés, et lui transmettre l'information à lui, voilà, quoi. Donc, devenir investigateur là-bas, payer 3000 euros par mois. Et encore, il me disait que c'était les débuts. Alors, ça tombe, je pouvais gagner encore plus. Après, il me parlait de primes tous les ans. En Écosse, c'est un système de primes. Il me dit, ouais, il commençait à me dire, regarde les maisons que tu pourras t'offrir avec un salaire fixe. Et il m'a dit, tu bougeras dans le monde entier, il va falloir que tu apprennes l'anglais, parce que c'est une langue très importante. Et après, tout doucement, on a commencé à aller en Belgique ensemble, on allait à la mer ensemble. Mais c'est vrai qu'on n'y allait pas principalement pour faire des choses, juste on se baladait à la plage, et puis en Belgique, c'était pour les autres chercher du tabac, on les accompagnait, mais il n'y avait rien de... C'était pas le fait d'aller en Belgique ou à la mer, c'est le fait de parler avec lui. À se voir tous les jours, et puis par la suite j'ai mon propre appartement. Alors je lui ai dit, écoute, on s'entend bien, en plus c'était soi-disant mon futur employeur, donc je me suis dit je vais le garder à côté de moi. Donc je lui ai dit, écoute, viens plus au Flihu, je lui dis, viens carrément chez moi, quoi, parce que je me sentais en confiance avec lui, c'est quelqu'un de sympathique, je vais le loger chez moi, que je vais l'aider. Au début, il a fait exprès d'hésiter pour dire non, j'ai pas besoin de ça, puis au bout d'un moment il a dit, bon d'accord, je viens chez toi. Quand il arrive chez moi, il avait plein de sacs, il y avait au moins 3-4 sacs à lui, et bien rempli, beaucoup de vêtements. Et il devait prendre des médicaments matin, midi et soir, parce qu'il avait des douleurs de dos, dû à son poids, je pense. Et puis, sa tablette. Alors, l'appartement est petit, c'est un studio, c'était 19 mètres carrés, j'avais qu'un lit. Donc moi, il y avait une salle de bain et le salon, salle à manger dans la même pièce. Il se plaignait tellement de ses mal de dos, une personne de 57 ans, bah... En fait, c'est moi, au bout d'un moment, j'ai dit, écoute, tu dors dans le lit, t'as mal au dos, moi je dors par terre. Je l'ai fait de bon cœur parce que je suis jeune et en pleine forme, voilà. Tous les matins, déjà, on se lève, il est 9-10 heures. Souvent, il y avait un petit magasin à côté de chez moi, on allait chercher à manger le petit-déj, je prenais un petit-déj. Donc la cohabitation, ça se passe très bien, mais une tension. Je le considère plus comme un ami, mais comme mon futur employeur. Donc tout de suite, quand il me dit de faire quelque chose, même s'il est chez moi, je le fais. Il va me dire, fais la vaisselle, bah, je vais la faire. C'est souvent moi qui allais faire les courses, qui allais bouger. Il avait une emprise psychologique. Donc, il pouvait me demander ce qu'il voulait. Mais il ne demandait jamais les choses. Il savait quoi dire pour que j'aille dans cette direction. Quand j'ai commencé à le loger chez moi, il payait les courses, il payait pas mal de choses. Il disait qu'il y avait de l'argent sur la... Il appelait ça une légende. Donc je ne comprenais pas trop ce que c'était. C'est à ce moment-là que je me suis dit, ça doit être vrai, parce que pourquoi il paierait tout ça si c'était un escroc? Après, c'est moi qui offrais. Quand il me disait qu'il était au FLIU, avant qu'il me le dise, je lui proposais mon appartement. Quand il y avait mal au dos, avant qu'il me le dise, je lui proposais mon lit. Quand il fallait faire les courses, avant qu'il me le dise, je proposais. Il me demandait jamais. Il me dit, ouais, mais à chaque fois, il me disait, ouais, mais c'est toi qui me proposes. Il me manipulait, quoi. On passait la journée à regarder des films sur la tablette. Je me souviens avoir regardé avec lui souvent des films à énigmes, des films autobiographiques. C'est toujours intelligent, c'est toujours des films où il faut réfléchir, où il faut se creuser la cervelle. Il pouvait passer toute la journée sur mon lit avec la tablette. Sauf le soir quand il faisait à manger. J'ai apporté tout ce qui était les ingrédients et lui, il faisait très bien à manger. Puis, il dit, de toute façon, c'est moi qui cuisinais quand j'étais au camp. Dans la famille, c'est moi le cuisinier. Une fois, il s'est foutu en rage folle parce que je me souviens qu'il avait fait des pâtes. Et lui, quand il faisait à manger, il se prenait pour un chef. Et sans faire exprès, j'ai oublié la passoire et toutes les pâtes ont été dans l'évier. Et pendant au moins 3 jours, il m'a traumatisé. Dans le sens où j'allais au marché avec lui et il me faisait des petites remarques. Et toutes les remarques me faisaient mal. Genre, de toute façon, toi, maintenant, tout ce qui est bouffe, tu touches pas, hein, c'est moi. Bon, les pâtes, on évite. Hein. Alors, des trucs tout cons qui pourraient... C'est des petites piques qui n'ont... Moi, des gens normaux qui me feraient ces piques-là, je m'en foutrais. Mais lui, ça me faisait mal. J'osais rien dire à côté. J'avais peur. J'étais tétanisé. Il me faisait des promesses d'embauche par mail... avec son collègue, un certain Nigel Hay. C'est un monsieur qui s'occupe de tout ce qui est administratif là-bas en Écosse. Et c'est lui qui devait préparer mon contrat de travail. Donc j'avais des mails de lui disant « Je suis en train de faire votre contrat de travail, c'est en train de se faire, mais il faut du temps, prenez bien soin de Alan chez vous. » Alors à ce collègue, j'ai jamais parlé, c'était uniquement par mail. De la voix, il m'a parlé de plein de gens, je n'ai entendu personne de la voix à part Alan Fraser-Ovlovat. Il faisait tellement bien les choses qu'on aurait vraiment dit qu'il y avait quelqu'un à l'autre bout, alors que je pense qu'il n'y avait personne. Oh. Alors le plan, c'était de passer par l'Allemagne pour aller en Angleterre. Alors, c'est un mystère. Mais de passer par l'Allemagne, parce que là-bas, on avait une grande maison où tout le monde aurait pu se cacher avec ses aides de camp et tout ça. Et en fait, le temps que la situation se calme en Angleterre, on serait resté en Allemagne un moment et après, on serait parti en Angleterre. Et on aurait eu chacun notre tâche. On aurait dû être 10 avec ses cousins, avec son aide de camp, donc Nigel Hay. Bon, bien sûr, à chaque fois, la date pour partir en Allemagne était reculée. Et il disait toujours qu'il faut être patient, qu'à force d'être impatient, ses cousins allaient venir me voir pour me remettre dans le droit chemin. Il me faisait peur. Il faisait exprès d'appeler ses cousins devant moi en disant « Voilà, le petit jeune, il va falloir le recadrer parce que là, il manque de respect. Moi, on ne me manque pas de respect comme ça, je suis d'une famille noble. » Moi, j'étais à côté, j'avais peur qu'il mette en haut-parleur et que ses cousins, ils m'engueulent ou quoi. Donc, je disais rien encore. Je disais, ah, bah, d'accord. Et de toute façon, c'est reculé, c'est comme ça. Tu veux leur parler? Bah, non, j'avais peur. J'aurais pris le téléphone, j'aurais vu qu'il n'y a personne, et là, je l'aurais eu. Mais j'ai pas osé le prendre. Il savait que je le prendrais pas. C'est pour ça qu'il me l'a proposé. Il y avait toujours des choses à dire. Il m'embrouillait totalement. Et là, c'est commencé à douter, c'est quand il reculait de plus en plus l'échéance de départ, quoi. Je ne l'ai pas présenté à des gens, mais il y a des gens qui l'ont connu en même temps que moi, dont deux personnes qui étaient SDF. Il nous a promis une maison à 3 étages à Malo-les-Bains. C'est à quoi, 5 km de Dunkerque. Une très belle maison en face de la mer. La maison, elle doit être à 100 mètres de la mer. Un étage chacun. Et les deux autres, ils ont beau dire qu'ils n'y ont pas cru. On a quand même été visiter la maison avec un agent immobilier et une maison à 3 étages qui vaudrait 500 ou 600 000 euros, quoi. Voire plus. Et on a été avec la dame visiter. Donc à partir du moment où tu te dis, le mec, il prend une femme pour visiter, tout ça, tu te dis, bah, il va pas faire tout ça pour que derrière, il n'y a rien. Tu continues à y croire. En plus, il demande des détails, il visite, et il paraît très crédible auprès de la femme. En plus, il se permet de faire la leçon à un jeune qui commence à lui dire, bah, va falloir que tu te bouges les fesses parce que t'as pas de travail, faut vraiment que tu t'intègres à la société. Je te donne une chance, je te donne un étage de la maison, mais il faut que tu te bouges, quoi. Et nous, le pire, c'est qu'on disait, ouais, Rémi, on va prendre la maison, il faut vraiment que tu te débrouilles comme nous, quoi. Parce que nous deux, on est en activité, moi et l'autre personne, donc toi, il va falloir que tu te bouges. À l'époque, j'étais au RSA. Je cherchais activement du travail, mais j'en trouvais pas. Parce que j'étais dans le domaine de le fait d'être éducateur, mais j'avais pas les diplômes. Mais j'étais toujours actif, j'étais jamais chez moi, j'étais toujours dehors à chercher quelque chose pour m'en sortir. Marrant parce que je retourne à l'accueil de jour alors que ça faisait 6 mois que j'y avais pas été. L'accueil de jour, c'est pas comme les staminés, c'est un endroit où on mange le matin, le midi, et puis il y a un goûter à 16h et puis à 18h ça ferme. Un des deux qu'on a visité la maison, il me regarde, il me fait tape Alain Jolois sur internet. Je tape Alain Jolois et là je vois quoi? La photo d'Alain Jolois sur internet. Et là, j'ai douté à fond. Je l'appelle et il me dit non, mais t'inquiète, retourne à la maison, on va en parler. Et là, il commence à réussir à me reconvaincre que c'est pas lui, que c'est quelqu'un qui lui ressemble. Alors que c'est lui, quoi. C'est lui sur la photo. Donc je me suis dit, c'est bizarre. Bon, là, c'était devenu fou. Et j'étais trop dans le doute, je me suis dit, quitte à avoir peur, parce qu'il me menaçait. Il me dit, de toute façon, c'est simple, si tu me mets dehors, mes cousins, ils vont te choper, ils vont te tabasser, parce que tu peux pas me laisser dehors, je suis en danger. J'ai eu peur, et puis je lui ai dit, j'ai trop de doutes, tu pars. Aujourd'hui, tu pars. Alors il fait ses affaires, ses emplettes, il prend sa douche et il dit bon, au revoir. Comme si, au revoir à la prochaine, quoi. Comme s'il s'attendait à tout moment à être viré, en fait. Et ce qui m'avait étonné, c'est que 5 minutes après, je suis allé dehors, je sais pas par où il est passé. Pas moyen de mettre la main dessus. À ce moment-là, j'ai eu très peur parce que pendant au moins 1 semaine après, tous les soirs, je regardais s'il n'y a pas quelqu'un à la porte qui venait me choper, quoi. Qui me tue parce qu'il me parlait de meurtre aussi. Et en fait, tous les soirs, il n'y avait rien. J'ai été loin parce que je devais rentrer en formation. J'ai même annulé mon entrée de formation pour obtenir le poste que lui voulait me donner, quoi. J'y croyais que j'allais être embauché chez lui, que j'allais faire partie de sa mafia, de sa famille, quoi. J'ai même coupé court avec certains de mes amis à cause de lui. Il m'a isolé totalement. Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit que je valais mieux que ça, que maintenant il fallait vraiment que je me consacre à mon travail, à être professionnel, à commencer à parler anglais, qu'il fallait les oublier. De toute façon, tu t'en feras d'autres, des meilleurs. Je lui ai montré même des photos de mes anciennes copines. Il me dit « Oh, mais ça, laisse tomber, maintenant tu vas avoir des très belles femmes. » Voilà, quoi. L'argent...
Xavier consulte alors les appels que son squatteur a donnés depuis son portable et se lance.
J'ai tout simplement été dans les derniers appels récents et j'ai rappelé. Cette personne, c'était son ex-femme, à qui il a volé 80 000 euros. Et on a commencé à parler pendant au moins 2 heures. Et elle commence à me dire exactement les fonctionnements, ce qu'il faisait chez moi, ce qu'il a fait là-bas avec elle. Le fait qu'il sortait sa culture devant toute la famille. Au bout d'une heure, j'étais convaincu totalement.
La femme à laquelle parle Xavier s'appelle Sylvie. Elle a une cinquantaine d'années et elle est professeure d'EPS, maman d'un ado de 16 ans. Sylvie ne souhaite pas être enregistrée, mais nous lui avons parlé longuement au téléphone. Ce qu'elle décrit, c'est une histoire d'amour, pas plus sexuelle que celle d'Alice, mais qui met en place une mécanique d'emprise assez classique. Jolois utilise le même personnage d'espion écossais. Souvenez-vous, Andrew, Alan, Isaac, Fraser, Ovlovat. Très vite, Sylvie se croit sur écoute. Elle est bombardée de messages anxiogènes jour et nuit, émanant de nombreux pseudo-correspondants avec des ordres et des menaces. Privée de sommeil, elle vit dans la peur, épuisée par les rebondissements quotidiens orchestrés par Jolois. Sa santé fragile en prend un coup. Et puis, pour préparer la visite en France d'une quarantaine de personnes du clan écossais pendant 15 jours, Sylvie contracte des dettes colossales. 80 000 euros, c'est le chiffre auquel elle arrive en additionnant ce qu'elle a dépensé pour lui pendant un an, aux arts versés à des hôtels, à des restaurants, à des fournisseurs. Sans oublier la piste d'atterrissage d'hélicoptère qui doit être éclairée toutes les nuits dans un champ pour l'arrivée des Écossais. Qui, vous le savez maintenant, n'atterriront jamais. Quand l'imposture est dévoilée et que les fournisseurs commencent à réclamer leur argent, le compte bancaire de Sylvie est bloqué et son salaire saisi. Pendant plusieurs années, le RSA, c'est tout ce que les créanciers lui laissent pour vivre. Et avec ça, la honte, la culpabilité, la parano pour la vie. Aujourd'hui, dans la petite ville du Jura où se sont passés les faits, Sylvie rase les murs. Elle n'a pas fini de payer ses dettes. Elle n'ose même plus passer devant certains établissements. Ses plaintes n'ont rien donné, son avocate s'est suicidée, sans rapport avec l'affaire, mais démoralisant quand même. Alice, que nous suivons depuis le début de cette histoire, connaît bien Sylvie. Elle l'a contactée immédiatement après avoir lu un article sur son histoire dans la presse régionale.
Sylvie, elle m'a dit que si elle n'avait pas eu son fils, elle se serait foutue par la fenêtre. Il y en a un autre, il l'a fait, il peut mettre les gens par terre, quoi.
De toutes les victimes de Jolois, Sylvie est celle qui semble avoir pris le plus cher. Mais il pourrait y avoir une affaire encore plus grave. Le journal Le Monde rapporte qu'un an après les faits environ, en 2023, Alain Jolois est placé en garde à vue sur ordre du parquet de Pontoise pour viol sur mineur de 15 ans. L'affaire se déroule sur l'île de Ré et on ne dispose hélas d'aucune information supplémentaire, si ce n'est que la garde à vue est levée le lendemain et qu'il est présumé innocent. C'est la première et unique fois, à ma connaissance, qu'il est impliqué dans une affaire de violence sexuelle. Mais on le sait aussi, la parole des victimes de viol est rarement entendue. Et lorsqu'elles font la démarche rude et humiliante d'aller porter plainte, il faut généralement les croire. Il y aurait donc peut-être une face encore plus sombre à ce personnage qui ne divertit plus personne. Quant à Xavier, dans son foyer de Dunkerque, il utilise aussi le mot d'emprise. Et comme toutes les femmes, il s'en veut de l'avoir cru.
Quand on se rend compte qu'on a été berné, c'est une déception, un soulagement, parce que justement, je peux retrouver mon lit, mais c'est pas que au sens physique, ça veut dire que je peux retrouver, entre guillemets, ma liberté chez moi. J'ai plus d'emprise. Donc je pense que le soulagement est plus fort que la déception. Je pense qu'au fond de moi, j'ai toujours un tout petit peu douté. Je sais pas. Mais pendant un mois, c'était du rêve, quoi. Je suis devenu un peu fou, quoi. J'ai rêvé trop grand. Et j'ai cru. Voilà, j'ai cru. Alors, peut-être pas dû, mais j'y ai cru, en tout cas. J'ai encore quelques traumatismes. Je suis devenu un peu parano à cause de lui. Mais à part ça, j'ai repris le dessus, donc entre guillemets, je pense que j'ai quand même gagné parce que j'arrive à ne plus penser à lui, donc je l'ai vaincu, quoi.
Alice aussi a vaincu. Nous l'avions laissé juste au moment où le nom de Jolois lui était apparu pour la première fois. Quelque temps après, elle se décide enfin à le dénoncer, preuve à l'appui. Sauf qu'Alice est une chic fille.
C'est pas évident d'aller balancer quelqu'un, hein. Surtout, je fais du bénévolat en prison quand même, bon. Même si on se dit que c'est un gros salaud, mais c'est pas évident.
Au commissariat de Vannes, Alice expose au commissaire le scénario qu'elle a imaginé pour faire arrêter son compagnon d'alors. Il est impératif, notamment, qu'il interpelle Jolois vers 9h du matin.
Je lui dis, si vous sonnez et que vous dites c'est la police, il va dire de pas ouvrir. Moi, j'avais dit à Andrew, il y a un livreur qui va venir, j'ai commandé des croquettes. Donc si t'entends l'interphone, c'est le livreur de croquettes. Donc d'accord, il m'a dit, ok, je dirais c'est le livreur. Donc le lendemain matin, à 9h30, ça sonne, c'est le livreur. Donc il était avec un autre mec et une femme, ils étaient trois, en civil, machin. Ils l'ont réveillé, voilà, et ils lui ont dit, bah, il est 9h40, vous êtes en garde à vue. Donc voilà, ça s'est terminé comme ça.
Alice apporte ensuite au commissariat les quatre gros sacs d'affaires avec lesquels elle a trouvé Jolois, un an plus tôt, devant le Darty. Mais vers 16h30, coup de théâtre, Jolois est relâché car la procédure ne tient pas. Très à l'aise, il envoie un message à Alice.
Le soir, après, il m'a envoyé un message par WhatsApp. Merci de m'avoir balancé, ça au moins c'est fait. Et moi, là, à ce moment-là, j'étais quand même encore sous emprise. J'avais peur encore quand même. Puis ça invente une vie depuis 40 ans, donc pourquoi il n'irait pas me tuer, quoi? Alors je lui ai répondu, au lieu de dire « bah oui, c'est moi qui t'ai balancé, espèce de gros con », je lui ai mis « avec tous les gens que t'as emmerdé tant d'avis, je pense que si quelqu'un doit te balancer, ça peut être moi, mais aussi, il n'y a pas que moi qui peut te balancer ».
Alice a depuis refait sa vie. Elle va bien, elle consacre tout de même beaucoup d'énergie à essayer de faire condamner Alain Jolois.
Fin avril 2022, quand il est parti de chez moi avec la police, je me suis fait une promesse à moi-même, celle de tout mettre en œuvre pour qu'il soit connu et reconnu du plus grand nombre.
Elle parle aux victimes, aux journalistes, elle a même l'intention de publier un livre sur cette histoire.
Et puis j'échange de temps en temps avec Sophie, en Belgique, celle grâce à qui il a été interpellé rapidement.
Alors, quand elle a appris qu'il avait été arrêté à Charleroi en novembre 2024 pour une nouvelle escroquerie et que Jolois était depuis lors en détention provisoire, Alice a repris espoir.
Mon plus grand souhait, qui est aussi celui de Sylvie d'ailleurs, c'est que Jolois ne puisse plus jamais nuire.
En détention provisoire depuis plus de 6 mois, Jolois est en effet hors d'état de nuire pour l'instant. Mais il peut encore parler, car les détenus de la prison de Charleroi ont le droit d'utiliser un téléphone mis à leur disposition, à condition d'acheter une carte.
Eyes will drift to the sky in time. While arms keep holding tight, there's a party in full force. Still the guests can't help but watch the door.
C'était Le Pic-Assiette, splendeur et misère d'un mythomane, épisode 6, Plus personne ne rit. Une série d'Alain Lefkovitch et Sonia Kronlund en partenariat avec Society. Reportage Alain Lefkovitch, réalisation Anne-Laure Chanel et Éric Lancien. Conseil à l'écriture Adila Benedjaizou. La musique c'est Gilles Lavanant. L'enquête c'est Lucie Tétard et Inès Bouffartic Sébastien. L'attaché de production c'est Valentin Rémy. Et notre stagiaire c'est Luce Mourant.
Then 5 years down the line, you say she was never my type. Lovers are strangers, there's nothing to discuss. Hearts will be faithful while the truth is told to someone else. Lovers are strangers.
There's nothing to discuss. Hearts will be faithful while the truth is told to someone else.
When you look up,
tell me. By surprise, looking into strange eyes, like school kids who are not friends. In the streets, they are connected. Huddling in the dark, the only number you call. Magic moments are not lost, they'll outlive all your doubts. Lovers or strangers, there's nothing to discuss. Hearts will be faithful while the truth is told to someone else. Lovers or strangers, there's nothing to discuss. Hearts will be faithful while the truth is told to someone else.